Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, affrontement au sein de l'ethnie Oromo en Éthiopie. Explication dans un instant de Valérie Crovam. Quelle issue imaginer à la crise chilienne? Commentaire d'Olivier Compagnon, invité ce matin de Caroline Brouet. Et puis, quel lendemain prêté à Evo Morales, le président bolivien réélu au premier tour selon la Cour des comptes aux grandes dames de l'opposition. Reprise progressive du travail aujourd'hui à General Motors après 40 jours de grève, précision de Pierre-Yves Dugas. Puis à la fin de ce journal, la Bulle Écho signée ce samedi Anne-Laure Chouin qui nous entretient de la politique agricole commune 2020 en pleine négociation. L'ethnie Oromo, de nouveau en proie à des luttes fratricides, victime d'instrumentalisation politique et d'une lutte entre le Premier ministre et son rival et ancien allié Jawar Mohamed, quand Biarmed accuse les patrons de presse de souffler sur les braises. Jawar Mohamed prétend que, je cite, « la transition déraille ». Fin de citation. 67 morts cette semaine en Éthiopie. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Voilà une véritable épreuve supplémentaire pour le Premier ministre.
Épreuve de cette tension, des militaires ont été déployés dans plusieurs localités, pour la plupart situées en région Oromo, où ont eu lieu l'essentiel des violences de cette semaine. Alors, des violences qui ont mis en lumière la rivalité entre deux hommes, Jawar Mohamed, un jeune activiste de 32 ans, et le Premier ministre, désormais nobilisé Abiy Ahmed, tous deux issus de la communauté Oromo, l'ethnie majoritaire en Éthiopie.
Et c'était c'est la province la plus peuplée et la plus importante par sa superficie.
Effectivement, Jawar Mohamed est un homme qui est très influent. Il a 1 700 000 abonnés sur Facebook, une chaîne de télévision qu'il a créée et qui est aujourd'hui très suivie. Il peut donc très facilement mobiliser ses partisans. Ce militant avait pourtant été en première ligne dans les manifestations anti-gouvernementales qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en avril 2018. Mais aujourd'hui, tout semble opposer les deux hommes. L'activiste accuse le Premier ministre de dérive dictatoriale et d'intimidation. Jawar Mohamed a aussi des ambitions politiques. Il n'a pas exclu d'ailleurs de se présenter contre Abiy Ahmed aux élections législatives de mai prochain. Et puis à l'opposé, ses détracteurs l'accusent de souffler sur les braises à travers un nationalisme au relent ethnique. Ces violences sont en tout cas un défi de taille pour Abiy Ahmed, présenté comme un réformateur. Depuis son accession au pouvoir, il a libéré de nombreux opposants. Il a permis aussi une liberté d'expression plus large en Éthiopie, ce qui se retourne quelque part contre lui aujourd'hui.
Merci de toutes vos explications, Valérie Crovam. Le président chilien a entendu la rue. Comment imaginer le contraire? 1 million de manifestants hier dans les rues de Santiago et maintenant. Que peut-il faire, Sébastien Piñera? Quelle annonce privilégiée? Défaire le gouvernement ou bien multiplier les promesses et dégager dans l'urgence de considérables sommes d'argent? Les attentes sociales sont telles que la colère n'est pas près de retomber. Croissance en chute libre et inégalité à la hausse depuis 2013. À cet égard, nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'a donné à Caroline Brouet ce matin Olivier Compagnon, directeur du Centre de recherche et de documentation des Amériques.
On voit d'un côté le nouveau quartier de Sanatán, c'est le Manhattan de Santiago, qui incarne la très grande prospérité chilienne, le monde de l'exportation du cuivre, l'économie de service, une réelle prospérité, au fond une métropole mondiale. Et par ailleurs, sur les hauts plateaux, aux confins de la Bolivie, des villages qui vivent comme au 19e siècle, si vous voulez. Là, on prend la mesure des inégalités, et donc en aucun cas ça peut être réjouissant. Mais ce qui est réjouissant, en tout cas, c'est de voir des sociétés civiles qui sont vivantes. Et notamment, dans le cas chilien, c'est très intéressant, puisque on voyait une société contrainte par 17 ans de dictature, où les gens ne se parlaient pas, où les mouvements sociaux étaient quasiment nuls, si vous voulez. Et là, effectivement, on voit que le temps a passé. Alors évidemment, le modèle économique au Chili n'a pas été transformé, les inégalités sont criantes, plus que jamais, mais la société civile est vivante. On le voit au travers de ce mouvement social vraiment massif, et on le voit aussi au travers de toute une série d'autres mouvements. Je pense par exemple au mouvement féministe au Chili, qui est extrêmement important. Très récemment, on a quasiment dans toutes les universités du pays, des jeunes étudiantes qui ont pris les universités, qui ont bloqué les universités pour attirer l'attention en général sur la condition féminine au Chili et plus spécialement sur les rapports de domination qui peuvent exister dans des mondes clos comme le monde universitaire. Bon, c'est l'effet MeToo hein, que l'on observe ici, mais en tout cas, ce sont des sociétés civiles qui sont bouillonnantes et ça, c'est plutôt bon signe en termes de vitalité de la démocratie.
Olivier Compagnon, invité ce matin de France Culture. L'Amérique latine, théâtre de nombreuses contestations sociales ces derniers mois, n'avait pas connu pareille ébullition en cascade depuis les décolonisations. Autre terre de morosité économique, la Bolivie, avec une réélection d'Evo Morales à la tête du pays au premier tour qui a provoqué beaucoup de remous. La Cour des comptes vient en effet de publier les résultats définitifs du scrutin. Après 5 jours de manifestations, l'opposition dénonce toujours un décompte frauduleux. C'est un reportage dans les rues de La Paz d'Alice Campagnol.
C'est dans un concert de casseroles que la ville de La Paz a terminé sa journée. Hier, le tribunal suprême électoral venait d'annoncer quelques heures auparavant les résultats définitifs des élections présidentielles.
Le mouvement Communauté citoyenne, 36,51% des voix. Le parti du MAS obtient 47,08% des voix.
Il n'y aura donc pas de second tour, et ce malgré les recommandations de l'Organisation des États américains et de l'Union européenne. Mais selon les mots de sa présidente, le tribunal n'a rien à cacher aux organisations internationales.
Nous sommes disposés à l'organisation d'un audit électoral et nous allons le faire, tout comme nous avons accueilli des observateurs électoraux.
Les porte-paroles de la Cour électorale ont rapidement pris un ton défensif face aux accusations de fraude qui pleuvent sur l'institution depuis maintenant 5 jours.
Face aux insultes et aux injures, nous ne répondrons qu'avec la vérité.
À La Paz et Santa Cruz, les opposants ont bloqué les rues pour continuer à protester contre le résultat de ce vote. Et bien que la journée ait été très calme à La Paz, l'appel à la mobilisation continue dans tout le pays.
Reprise des affrontements en début de matinée à Bagdad avec des QG de partis et de groupes armés pris pour cible par les détracteurs du régime. 200 morts depuis le début du mois en Irak. La plus longue grève dans l'automobile aux États-Unis depuis 1970 s'achève aujourd'hui. Une forte majorité des 48 000 ouvriers a approuvé les termes d'un nouveau contrat de travail de 4 ans négocié par le syndicat unique qui les représente. Le travail va donc reprendre progressivement dans les 34 usines de General Motors, paralysées depuis 40 jours. United Auto Workers a en effet obtenu des hausses de salaire et préservé la couverture d'assurance maladie des ouvriers. En revanche, il n'a pu sauver qu'une des 4 usines que General Motors voulait fermer. Washington, Pierre-Yves Dugas.
La grève a coûté plus de 2 milliards de dollars à General Motors. 300 000 véhicules n'ont pas pu être assemblés pendant les 40 jours d'arrêt de travail de 48 000 ouvriers. L'UAW, le syndicat unique des ouvriers automobiles, obtient l'élimination progressive de la double échelle de salaire en place chez GM depuis 10 ans. Il obtient des hausses de salaire réparties sur 4 ans, un bonus immédiat de 11 000 dollars pour les ouvriers de plus forte ancienneté. GM, de son côté, maintient la fermeture de 3 usines, mais sauve une usine à Détroit en y investissant 3 milliards de dollars. Le syndicat va maintenant négocier avec Ford pour transposer ce contrat aux 55 000 ouvriers employés par le numéro 2 américain de l'automobile.
Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, les habitants de l'agglomération rouennaise ne désarment pas et ne se contentent pas des annonces faites hier par le Premier ministre Édouard Philippe, qui sur place a promis des indemnisations aux chefs d'entreprise et l'organisation en mars prochain d'une enquête de santé. Nouveau rassemblement cet après-midi devant le palais de justice de Rouen pour être enfin reconnu comme victime d'une catastrophe sanitaire. Jean-Noël Guiadé est l'un des 2 porte-parole du collectif Les Sinistrés de Lubrizol. Vous allez l'entendre, il fait allusion dans quelques mots au PDG du groupe chimique américain Eric Schnorr.
Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'une fois de plus, on minimise complètement les choses. Ça, c'est la méthode américaine en ce qui concerne M. Schnorr. Hein. C'est la méthode américaine qui est bien connue. On paye, et puis on rouvre très vite. Du reste, il l'a déclaré quelques temps après qu'il désirait rouvrir au plus vite ce site. Elle ne me convient pas parce qu'on reste sur un nuage de suie, donc de 22 km, avec 215 communes qui vont être suivies au niveau sanitaire et environnemental. On ne parle toujours pas des communes qui sont sur le sud de l'agglomération rouennaise, qui sont elles aussi touchées. Hein. J'en fais partie, moi je suis sur Petit-Quevilly. Plus de la moitié des installations Lubrizol sont sur Petit-Quevilly. Nous, on aimerait surtout être reçus par le gouvernement, donc par l'enquête parlementaire. On parle d'indemnisation pour les victimes, donc c'est-à-dire pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour la région. Mais au-delà de ça, que fait-on du simple citoyen qui lui-même est victime ? Là, on n'en parle pas du tout, il n'y a aucune question d'ouverture là-dessus. il y a beaucoup de zones d'ombre qui subsistent, notamment sur les résultats de tests qui ont été faits, qui peuvent être suspicieux, notamment sur les dioxines. On nous explique hier, dans ce comité de transparence, que sur ces 9 tests suspects, c'est sans doute des erreurs d'échantillonnage. Et là, le préfet même rajoute directement, c'est des erreurs sans doute parce que c'est des tests qui ont été récupérés sur des tables de ping-pong, voyez-vous. Donc là, j'ai envie de dire aux propriétaires de tables de ping-pong, surtout ne nettoyez pas vos tables de ping-pong parce que vous allez vous empoisonner, ça dégage des dioxines, quoi, c'est terrible.
Jean-Noël Gadier, l'un des deux porte-parole du collectif Les Sinistrés de Lubrizol avec nos confrères de France Info.
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
Et la PAC 2020 se négocie en ce moment à Bruxelles. Les propositions pour la réorienter fleurissent. Dernière en date, Anne-Laure, celle de France Stratégie.
Que serait une PAC idéale du point de vue français, le pays étant le principal bénéficiaire de cette politique européenne avec 9,1 milliards d'euros d'aide distribués par an. C'est à cette question que France Stratégie, organisme de prospective et d'évaluation des politiques publiques, a tenté de répondre via un rapport rendu public cette semaine. Soyons cyniques, d'emblée, les propositions du groupe d'experts réunis par France Stratégie n'ont que très peu de chances d'être adoptées parce qu'elles ne reflètent la position ni des syndicats agricoles majoritaires, ni de la majorité des 28 pays membres, ni de la Commission européenne. Mais l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il politise le sujet de l'agriculture européenne à un moment où cette absence de vision politique de l'agriculture est en train d'accélérer la disparition du monde agricole et qu'il vient abonder une série d'autres propositions, notamment celle du collectif pour une autre PAC qui a défilé mardi dernier devant le Parlement européen de Strasbourg. Cette politisation qui consiste à faire de l'agriculture un levier essentiel de la transition écologique est visible dans le changement de braquet opéré par France Stratégie en ce qui concerne l'allocation des aides de la PAC. Si l'on voulait résumer à grands traits le principe de la PAC actuelle, on pourrait dire que l'argent versé privilégie la production et la surface, ou comme dirait cette petite vidéo du collectif pour une autre PAC,
la majorité de ce pognon est reversée à l'agriculture intensive. Pourquoi ? Eh bien parce que plus t'as de terrain, plus on file de thunes, et quand t'as beaucoup de terrain, le plus simple c'est monoculture, pesticides et gros tracteurs de bonhomme sa mère. Aïe aïe aïe.
France Stratégie propose donc d'allouer l'essentiel des futures aides de la PAC en fonction de l'unité de travail par exploitation et non plus en fonction de la taille de cette exploitation. Pour résumer, une petite ferme de maraîchage en bio qui nécessite de faire travailler, disons, 10 personnes sur peu d'hectares recevrait plus d'aides qu'une grosse exploitation céréalière qui ne fait vivre qu'un couple d'agriculteurs. Je caricature à dessein, mais c'est l'idée. Soutenir l'emploi agricole, c'est par ce biais que l'agriculture pourra devenir plus verte, car souvent des pratiques agricoles plus respectueuses demandent plus de travail. Deuxième changement de braquet, France Stratégie propose que cette rémunération soit distribuée sous la forme d'un bonus-malus à hauteur des bénéfices environnementaux que les pratiques agricoles menées par ces agriculteurs apporteront à la société. Ces paiements pour services environnementaux commencent d'avoir le vent en poupe, y compris dans les propositions du ministère français de l'Agriculture. France Stratégie propose d'en faire la colonne vertébrale de l'allocation des aides PAC en rémunérant la diversification des productions, le maintien des prairies permanentes ou les pratiques d'agroforesterie, par exemple, et en taxant, d'un autre côté, l'utilisation de pesticides et les émissions de gaz à effet de serre. Le produit de cette taxe, et c'est aussi une nouveauté, serait redistribué pour le monde agricole pour financer des contrats de transition agroécologique. Il ne faut plus que l'agriculteur soit un chasseur de primes, résume France Stratégie, mais qu'il ait tout intérêt à transformer ses pratiques. Des principes d'ores et déjà salués par la Confédération paysanne, le syndicat agricole minoritaire pointe par contre l'abandon dans ce projet des instruments européens de régulation des prix type quota. France Stratégie estime de son côté qu'en rémunérant l'emploi agricole, les outils de marché ne seront plus nécessaires. Le but, en effet, c'est de privilégier un modèle de petite exploitation diversifiée où une production qui serait défaillante une année serait compensée par les autres productions. Il est peu probable que cette vision d'une PAC profondément transformée ait l'aval de la Commission ou du Parlement européen. Reste qu'il s'agit d'un apport original à un débat essentiel.
Aïe aïe aïe. Merci à vous, Anne-Laure Chouin. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Pas de pluie, mais du gris. De l'est de la Bretagne au pays de la Loire jusqu'en Lorraine, de belles apparitions du soleil. Dans l'après-midi, ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Marie-Claire Oumabadi.